Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
À la une ce soir, la mort de Saeb Erekat, négociateur en chef des Palestiniens. Il a participé à de nombreuses discussions de paix avec Israël. Il est décédé à l'âge de 65 ans après avoir contracté le coronavirus. Le président palestinien Mahmoud Abbas évoque une perte immense pour la Palestine.
Un cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh. Il a été signé entre les deux parties en guerre, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. La Russie supervisera cet accord.
Joe Biden, qui prépare son mandat, le futur président américain, a multiplié les échanges téléphoniques aujourd'hui avec des dirigeants étrangers. Il s'est ainsi entretenu avec le président français, Emmanuel Macron, la chancelière allemande, Angela Merkel, ou encore Boris Johnson, le premier ministre britannique.
Et Boris Johnson qui est lui dans la tourmente après un vote au Parlement sur l'accord de Brexit. Explication à la fin de cette édition.
Le journal en français facile.
C'était l'une des personnalités palestiniennes les plus connues à l'étranger. Saeb Erekat est décédé ce mardi à l'âge de 65 ans.
Oui, souffrant d'une maladie des poumons, il avait contracté le coronavirus et cela lui a été fatal. Alors en tant que négociateur en chef des Palestiniens, Saeb Erekat a participé à de nombreuses discussions de paix avec Israël, des discussions qui aujourd'hui sont à l'arrêt total. Il était partisan d'une solution à deux États. Ce soir, les hommages sont très nombreux. Correspondance à Jérusalem de Guilhem Delteille.
Les hommages sont venus de tous bords de la classe politique palestinienne. Le président Mahmoud Abbas, dont Saeb Erekat est resté proche jusqu'au bout, a dit pleurer la mort d'un frère, d'un ami, et jugé que ce décès était une perte immense pour la Palestine. Mais le chef du mouvement rival Hamas a également appelé Mahmoud Abbas et salué les positions nationales, dit-il, de Saeb Erekat et son soutien à la cause palestinienne. Côté israélien, de nombreux responsables politiques du centre et de la gauche ont aussi salué sa mémoire. On se souviendra de Saeb Erekat comme quelqu'un qui a préféré la paix à la violence, a jugé Amir Peretz, le chef du parti travailliste et ministre de l'économie. Saeb Erekat avait fait de la vision à deux États son projet de vie, note pour sa part le chef du parti de gauche Meretz. Les réactions internationales n'ont pas tardé non plus. Vous êtes resté convaincu qu'Israël et Palestine peuvent vivre en paix. Vous n'avez jamais abandonné les négociations, a écrit sur Twitter le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix, Nikolai Mladenov. Même Jason Greenblatt, l'ancien émissaire de Donald Trump pour le Proche-Orient, avec qui Saeb Erekat avait coupé les liens, a jugé que le diplomate palestinien a essayé avec force de représenter son peuple. Guilhem Delteille, Jérusalem, RFI.
Et le corps de Saeb Erekat a été emmené cet après-midi dans un hôpital de Ramallah où une cérémonie militaire est prévue demain matin. Il sera ensuite enterré à Jéricho, dans la vallée du Jourdain, où il habitait.
Un accord de fin des hostilités dans le Haut-Karabakh.
Oui, le Haut-Karabakh, c'est cette région en proie à un vieux conflit qui a ressurgi il y a 6 semaines entre, d'un côté, l'Azerbaïdjan, de l'autre, l'Arménie. Le Haut-Karabakh est une région séparatiste d'Azerbaïdjan, peuplée en majorité d'Arméniens. Donc ces deux parties, Azerbaïdjan et Arménie, ont signé un cessez-le-feu, c'était tard hier soir, et cela sous l'égide de la Russie, c'est-à-dire que ce cessez-le-feu va être supervisé par Moscou. La Russie montre ainsi une nouvelle fois qu'elle est un interlocuteur incontournable dans la région. Correspondance Daniel Valo.
La Russie jouera un rôle crucial puisque ce sont des soldats russes qui garantiront sur le terrain le respect du cessez-le-feu. Au total, près de 2000 hommes seront déployés durant une période renouvelable de 5 ans le long de la ligne de contact entre les séparatistes arméniens et l'Azerbaïdjan et le long du corridor de la Chine qui permet de relier le Haut-Karabakh à l'Arménie. Le rôle de la Russie a été crucial sur le plan diplomatique. À elle seule, elle a négocié ce cessez-le-feu sans que ne soit impliquée, officiellement en tout cas, la Turquie, principale alliée de l'Azerbaïdjan, sans que ne soient impliquées non plus la France et les États-Unis qui président pourtant le groupe de Minsk, c'est-à-dire le médiateur historique dans le conflit du Haut-Karabakh. Avec cet accord Encore, Vladimir Poutine rafle la mise sur plusieurs tableaux. Il joue le rôle de médiateur et d'arbitre incontournable qui lui revient dans la région et il installe durablement la présence militaire russe dans la zone. Autre avantage potentiel pour le Kremlin, l'affaiblissement de Nikol Pachinian, le premier ministre arménien, très peu apprécié de Vladimir Poutine et dont le maintien au pouvoir pourrait être compromis à l'issue du conflit et de la défaite cinglante subie par son camp. Daniel Valo, Moscou, RFI.
Et ce soir, la Turquie annonce qu'elle contrôlera, aux côtés de la Russie, l'application de ce cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh. La Turquie, on le rappelle, soutient de l'Azerbaïdjan dans ce conflit.
Les premiers entretiens téléphoniques ce mardi pour Joe Biden avec des dirigeants étrangers.
Oui, le futur président des États-Unis a échangé avec Emmanuel Macron, le président français, avec Angela Merkel, la chancelière allemande, ou encore avec Boris Johnson, le premier ministre britannique. Joe Biden a également reçu les félicitations du président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui a également envoyé un message à Donald Trump, le remerciant, je cite, pour sa chaleureuse amitié. Le président américain sortant, qui continue d'affirmer qu'il a gagné les élections, il multiplie les recours en justice, et Donald Trump est soutenu dans sa démarche par une grande partie de ses partisans. Écoutez le témoignage de Harry. Harry est un ancien militaire de 71 ans, il vit en Pennsylvanie et il affirme, comme Donald Trump, qu'il y a eu des fraudes à l'occasion de la présidentielle américaine.
Je pense que Donald Trump est un atout pour l'économie, que c'est un excellent businessman et pour que l'économie puisse à nouveau être en bonne santé malgré cette pandémie dans laquelle il a joué un rôle, je pense qu'il l'a laissé en bon état. J'admets donc volontiers que j'étais un partisan de Trump, mais je pense qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même pour cette défaite. Le premier débat a été atroce, des deux côtés, pas juste lui, mais chaque fois qu'il parle, il semble se mettre à dos les gens qui l'ont soutenu. Son attitude générale, prenons-les d'assaut, mettons-les par terre, il ne montre aucune empathie pour les besoins des gens et leurs préoccupations. Donc s'il y a quelqu'un à blâmer, tant que l'élection a été juste, et je ne sais pas si nous le saurons un jour, s'il y a quelqu'un à blâmer pour la victoire de Biden, je blâme Trump lui-même pour ne pas avoir mené une meilleure campagne et ne pas avoir fait preuve de plus de compassion envers le peuple américain.
Voilà, propos recueillis par Christophe Paget.
Et l'on reparle du Brexit, Romain, après un revers infligé au Premier ministre britannique Boris Johnson.
Oui, c'était tard hier soir et cela fait beaucoup de bruit. Les députés de la Chambre haute du Parlement ont rejeté plusieurs dispositions prises par le gouvernement de Boris Johnson. Des dispositions qui lui permettaient de s'affranchir de certains aspects de l'accord de Brexit, c'est-à-dire de ne pas tenir compte de ces aspects-là. À Londres pour RFI, Muriel Delcroix.
Le non retentissant des Lords au projet de loi du gouvernement est venu rappeler l'important malaise causé au Parlement par la volonté de Boris Johnson d'enfreindre le droit international. Les clauses supprimées par la Chambre haute devaient permettre à Londres de notamment passer outre l'obligation pour les entreprises d'Irlande du Nord de remplir des formulaires douaniers quand elles expédient des biens vers la Grande-Bretagne. Mais à peine l'issue du vote connue, Downing Street a répliqué que le gouvernement réintroduirait les clauses écartées quand le texte reviendra devant les députés aux communes où Boris Johnson dispose d'une très large majorité. Pour le gouvernement, ces clauses représentent un filet de sécurité juridique crucial qui doit assurer aux entreprises nord-irlandaises un accès sans entrave au reste du Royaume-Uni. Mais en s'entêtant, Boris Johnson risque de crisper non seulement Bruxelles alors que les négociations entrent dans leur dernière ligne droite, mais aussi désormais les États-Unis. Le nouveau président élu Joe Biden, qui est fier de ses origines irlandaises, redoute que ce projet de loi ne sape l'accord de paix du Vendredi Saint et prévient qu'il n'y aura pas d'accord commercial entre Londres et Washington si ces clauses sont maintenues. Néanmoins, le texte ne revient pas devant les députés avant décembre. La seule issue de secours pour Boris Johnson est d'avoir d'ici là conclu un accord avec Bruxelles, ce qui rendrait obsolètes ces clauses si controversées. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Et puis en France, Romain, encore de mauvaises nouvelles sur le plan économique.
Oui, l'économie qui est durement touchée, comme de nombreux autres pays dans le monde, par la crise sanitaire. Ce mardi, le groupe Printemps, qui rassemble de nombreuses enseignes célèbres, a annoncé envisager la suppression de 450 emplois en France. Cela devrait se traduire par la fermeture de 7 magasins, dont 4 à Paris. Dans ce contexte, l'Assemblée nationale a débuté ce mardi l'examen du quatrième et dernier projet de budget rectifié pour 2020 et il prévoit ce projet, eh bien 20 milliards de dépenses supplémentaires en direction principalement des entreprises et des indépendants. Mais c'est un soutien qui, selon l'opposition, reste insuffisant. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Zéphirin Quadio.
De rien, merci à vous.
Merci de nous avoir écoutés. 21h10 ici à Paris.